Folks who are joining us online as well as on the phone, we're...
Mesdames et messieurs, il y aura une participation en ligne et à distance et on va commencer dans quelques minutes, donc veuillez patienter, s'il vous plaît.
Okay.
Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je vais m'introduire pour ceux qui sont en ligne et également pour ceux qui composent le numéro. Je suis directeur des relations pour ICANN. Je suis Monsieur White et merci d'être de participer à la conférence sur IPv6. Très important, sujet très important. Pour vous, c'est un nouveau sujet. Si c'est le cas, vous allez être confronté à ce IPv6 très peu. Je vais introduire deux intervenants. Elise Garrett, vice-président de l'autorité de IANA. Et on va expliquer ce qu'est IANA, ses rapports avec ICANN. Également, nous rejoignons, il y a Axel Pollock, qui est le président du Conseil de ressources numériques. Et il va expliquer ce qu'est le NRO et sa fonction. Je vous donne la parole. Si vous pouvez commencer avec ces explications de base pour les journalistes, j'apprécierais beaucoup. Bonjour, je m'appelle Elise Garrick. Je suis vice-présidente de l'IANA. Comme Brad l'a dit si gentiment, il s'agit de l'autorité sur l'adressage, l'assignation de numéros. Il s'agit d'une institution parmi les plus anciennes de l'Internet, créée en 1970 grâce à une collaboration entre le gouvernement américain et l'Université de la Californie du Sud et John Pastel a eu cette tâche pendant plusieurs années lorsque le gouvernement a quitté ce projet de recherche pour établir les adresses, l'établissement de cette organisation est devenu IANA. ICANN, et c'est devenu ICANN. Donc, ICANN héberge les fonctions IANA et les adresses IP constituent l'une des trois fonctions du relevant de la responsabilité de IANA. Donc, nous faisons partie de l'Internet depuis longtemps. Et IPv, pour les adresses IPv4, IPv6 font partie de notre portefeuille. Et Axel va expliquer quels sont les rapports entre l'IANA et le NRO. Je m'appelle Axel Public et je suis le directeur de le NRO. Il s'agit d'une entité pour les registres Internet. Donc, on parle d'une voix et nous coordonnons notre action dans le contexte ICANN. Nous avons également comme tâche d'organisation de support des nombres. Nous sommes 5 pour les registres. Nous sommes tous à but non lucratif. Et celle que je préside est à Amsterdam. et nous, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, il y a Erin pour l'Amérique du Nord, l'Atlantique pour l'Amérique latine, Caraïbes, et une pour l'Asie-Pacifique et Afrinique pour l'Afrique. Mais nos affaires principales concernent les registres Internet, c'est d'obtenir des numéros d'Diana et les donner aux gens qui en ont besoin. C'est surtout nos membres, nos IP de grandes entreprises qui gèrent l'Internet, qui administrent des parties de l'Internet. Nous avons été créés en 1992 et Afrinique est le plus récent. Nous allons ces nombres, ces numéros. Nous faisons également d'autres choses entre les régions. Par exemple, on fait des mesures et des mais la chose la plus évidente, c'est l'allocation des ressources de noms et de numéros Internet et les adresses IPv6. Donc, je vais poser la première question. Qu'est-ce que l'IPv6 et pourquoi est-ce important? Si vous réfléchissez au fait qu'il existe des adresses IP qui sont comme des numéros de téléphone, et IPv4 avait une certaine quantité d'adresses, donc vous pouviez contacter un certain nombre de dispositifs. Et si vous pensez que les numéros de téléphone, c'est une bonne analogie, ce que vous dites, c'est que les IPv4, il n'y aura plus de numéros, donc vous ne pouvez pas avoir davantage de numéros de téléphone. Et c'est ce que cela fait pour les ordinateurs et les systèmes qui les branchent à l'Internet. Donc les IPv4 n'aura pas assez d'adresses pour tous ceux qui en veulent. Donc l'IPv4, il lui reste environ... Il y a 7 milliards d'adresses et le monde a une population de 7 milliards de gens. Donc IPv4 a 3,7 milliards de gens. Donc cela signifie que pas tout le monde dans le monde pourrait avoir un numéro de téléphone. S'il s'agissait d'un numéro de téléphone et non d'une adresse IP, IPv6, par contre, a élargi ce numéro, quantité d'adresses possibles, donc il y aurait davantage de numéros de téléphone disponibles, de manière à ce que vous ayez 340. Un chiffre, un décillion, il y a tellement de zéros que nous ne pourrions pas en venir à bout avant très 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 longtemps. Donc il y a plusieurs appelants, donc... Daniel, l'opératrice, vous avez ouvert les lignes. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui a une question? Le mode d'écoute est maintenant éteint. Vous avez une question? Est-ce que quelqu'un en ligne aurait une question? Alicia, vous voulez détailler? S'il n'y a pas de questions pour le moment, une des choses que j'aimerais mentionner maintenant que nous sommes en Colombie, c'est que le gouvernement colombien a créé un programme s'appelant Viva Digital et il existe beaucoup d'aspects à ce progrès visant à étendre la technologie et l'Internet à l'ensemble de l'économie pour soutenir la croissance de l'économie et colombienne. Et une partie essentielle de ce programme est le déploiement de l'IPv6 et la promotion de l'IPv6 en Colombie. Donc, je voulais féliciter le gouvernement colombien pour cette initiative et du fait qu'ils ont bien reconnu qu'il était nécessaire d'élargir leur capacité technologique et le déploiement de l'IPv6 en particulier. Une question, quel est le statut actuel de l'IPv6 ou l'adoption ou l'implémentation? Quel est le statut actuel et quel est l'avenir proche? Et je vous pose la question à vous deux. Pas assez bon, si je puis le dire ainsi. Nous avons parlé du besoin de l'adoption de l'IPv6 Cela fait déjà 10 ans, dès qu'il devenait clair qu'à un moment, il y aurait un épuisement d'adresses IPv4, parce qu'il y a eu un tel succès, la croissance fut fulgurante, donc l'épuisement était en vue, donc on a dû créer un nouveau appel, et maintenant, ce numéro impressionnant d'adresse doit être déployé maintenant, de manière urgente, je dirais. Nous, ça fait plus longtemps que nous le disons. Plusieurs études, sondages sur les IP et leur préparation à l'adoption IPv6. Et on veut voir également si nous desservons notre propre région à cet effet. Nous voyons qu'il y a une augmentation si impressionnante de la prise de conscience. Et nous avons parlé aux opérateurs Internet, les ARA et les... Et il y a beaucoup de matériaux que nous divulguons pour parler là-dessus. Et on voit une croissance de la prise de conscience, une augmentation des IP, des opérateurs qui en sont conscients et qui ont fait quelque chose, qui ont adopté IPv6. Mais il s'agit d'une toute petite minorité. Et nous... D'après, comme vous l'avez entendu d'Élise, l'épuisement de l'IPv4 aura lieu dans cette année, au courant de cette année ou l'année suivante. Et il faut être un ISP pour pouvoir avoir de nouveaux clients. Vous voulez connaître la croissance de vos affaires. Si vous êtes un utilisateur final qui a un webshop sur l'Internet, il faut passer à IPv6 parce qu'à un moment, vous allez perdre des parties de l'Internet si vous... les clients, des affaires, des revenus pour vous. Donc, il est important de parler au ISP et de demander le IVP6. Si vous êtes un ISP, développez, déployez l'IPv6. Et on a donné des adresses IPv6, cela fait déjà très longtemps. Il y a beaucoup d'adresses et nous serions heureux de continuer. Donc, outre... les commentaires d'accès, l'IPv6, ce n'est pas vraiment un service que voient les clients. C'est plutôt comme tout simplement le fait de passer du téléphone analogique au numérique. On a besoin d'un nouveau téléphone pour se connecter à l'infrastructure, mais ils ne savaient pas parce que c'était numérique plutôt qu'analogue. Ils ne savaient pas. Et vous aurez les deux qui vivront côte à côte pendant longtemps. Donc, de la perspective du client, une part le défi consiste, continue. Et on doit s'assurer que cela soit transparent, invisible pour les clients. Les clients ne doivent pas voir qu'il y a un changement dans leur service. Donc, ici, beaucoup d'entre nous dans la conférence, nous avons IPv6 dans notre structure et nos connexions se font à travers IPv6. Vous ne pouvez pas le dire. Je peux quand même naviguer sur le web comme tout le monde. Je peux échanger des emails comme tout le monde. Le réseau fonctionne de la même manière. Les technologistes ont fait un bon travail pour s'assurer que l'équipement a les bons protocoles, que la coexistence avec IPv4 se fait bien. Donc, ce qui est important, c'est que pour les ISP et les fournisseurs de prestataires de services, ils doivent continuer cette approche duelle où vous offrez l'IPv4 et l'IPv6 pour que les clients ne se doutent pas que cela se produit. Et pourtant, vous pouvez élargir votre base de clientèle, votre accessibilité et avoir la possibilité d'introduire de nouveaux services. Il n'y aura pas les mêmes restrictions sur les limitations qu'il y a maintenant en tant que ISP ou entreprise actuelle. Nous avons une question d'un journaliste en ligne où j'aimerais mentionner ici également pour les gens au téléphone, si vous êtes au téléphone, si vous avez une question, posez-la parce qu'on vous a laissé la voix au chapitre. Donc, qu'est-ce que vous faites spécifiquement pour encourager les gouvernements et le secteur des affaires à passer à l'IPv6? Quelles sont vos démarches spécifiques? Bon, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur les gouvernements, mais nous entendons les questions posées par le gouvernement qui sont préoccupés par leur économie nationale. Ils savent qu'une grande partie de cette économie se fait par Internet, dépend de l'Internet, et ils savent que quelque chose va se produire à ce niveau. Donc, il est important de dire pour le moment que l'Internet va continuer à fonctionner, même si nous n'avons plus d'adresse IPv4, comme l'a dit Yana, le déploiement va continuer à se faire. Mais nous, les gouvernements, que devons-nous faire? Et on leur dit que vous pouvez en faire beaucoup au niveau de la prise de conscience. Vous devriez en parler, demander des services et un équipement en tant que gouvernement pour les déployer pour être prêts sur l'IPv6. Vous ne pouvez pas faire autre chose en tant que gouvernement. En ce qui concerne les entreprises, c'est ce que nous faisons ici. Nous augmentons la conscientisation, nous parlons aux gens, nous demandons à ce que les utilisateurs finaux, les entreprises, demandent des IPv6, des ISP pour qu'il y ait un peu davantage d'intérêt de l'entreprise. Mais pourquoi est-ce que davantage de gens, des opérateurs, ne déploient pas davantage l'IPv6? Le problème, comme dit Élise, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses que le client final voit. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles caractéristiques. Donc, beaucoup des ISP disent, c'est pas vraiment très important pour nous maintenant. À l'avenir, ce le sera. Alors, on le fera. Mais pour le moment, on a d'autres choses à faire. Et le déploiement IPv6 a toujours été, on va le faire quand on devra le faire, donc, mais vous devrez le faire rapidement.
Nous avons une question en ligne. Quels sont les pays spécifiques qui sont à la tête de l'introduction d'IPv6? Je ne veux pas vexer aucun pays. Je ne veux vexer aucun pays, mais au cours de ces dernières étapes de déploiement, je dirais que c'est le Japon qui est un des premiers pays qui vraiment investissent dans ce domaine. Et dans ce cas-là, ça a été une initiative du gouvernement avec la communauté de recherche et la communauté académique et certaines compagnies privées. Et ils ont donc créé un réseau IPv6. Je pense que le Japon est vraiment à la tête. Il y a certains chiffres sur le web, vous pouvez regarder. Et ces chiffres montrent que la plupart du déploiement IPv6 se fait dans la région de l'Asie du Pacifique ou dans la région européenne. Je crois qu'en Europe, je ne sais pas quel pays, mais je crois qu'il y a un grand nombre d'activités au sein de l'Union européenne et pour mettre en place le système IPv6. Le gouvernement américain a demandé un équipement IPv6 jusqu'à il y a quelques années. Donc, il y a beaucoup de développement pour les vendeurs qui supportent cette infrastructure. Et pour les équipements qui sont associés aux télécommunications, aux services de données aussi. Et pour donc acheter un équipement qui soit compatible avec le système IPv6. Mais cela ne signifie pas que ces vendeurs et que ces compagnies ont déployé IPv6. Cela veut dire seulement que l'équipement est apte à le faire. Donc, le déploiement de l'IPv6, je ne veux vexer aucun pays qui pense qu'il était à la tête de ce changement. Je dirais que le Japon est le premier. Il a beaucoup d'activités dans ce domaine. Et d'après ce que nous voyons dans nos statistiques et qui sont disponibles sur le site web, nous voyons qu'il y a un grand nombre de demandes pour les IPv6 au niveau des registraires, en Europe surtout. Nous savons aussi que des grands pays comme la Chine, l'Inde savent qu'avec la croissance du réseau, ils ne vont pas pouvoir répondre aux besoins de leur population avec IPv4. Donc, ils vont devoir commencer à mettre en place des initiatives de déploiement d'IPv6. Maintenant, On voit qu'il y a beaucoup de demandes, un grand nombre de demandes qui arrivent pour l'IPv6 en Europe. Cela ne veut pas dire que ces demandes soient ou que cette traitement soit visible sur le net. Les gens demandent, donc sont en train de se préparer pour une activité qu'ils vont devoir mettre en œuvre et se renseignent. Donc nous avons certains espoirs. Hein. Et nous pensons qu'il faudrait que ce changement soit fait bientôt. Hein. Et si les personnes ignorent ce besoin, on va arriver à un point où les registraires de la région n'auront plus d'adresse IPv4. Hein, et ils diront, bien, on n'a plus d'adresse IPv4 pour vous. Et il faudra passer à IPv6. Et à ce moment-là, si ces gens nous disent, OK, et comment on fait maintenant? Il y aura une période à ce moment-là de doute, de panique pour ces personnes qui n'ont pas été suffisamment rapides pour et qui n'ont pas fait ce qu'il fallait qu'ils fassent à ce moment-là pour le déploiement d'IPv6. Une question d'une personne qui est en Europe. Quelles sont les attentes que vous avez en termes du dernier bloc de RAR et est-ce que vous pensez que vous allez vous retrouver sans? Je vais répondre à cette question. Nous avons 5 blocs d'adresses IPv4 actuellement et le IANA est en train de voir comment les attribuer. Si j'avais une boule de cristal, on peut prévoir que l'on va avoir une demande pour les deux dernières attributions, qui sera donc pour la politique globale, et entre maintenant et la fin du mois de janvier 2011. Cela veut dire qu'au mois de janvier, à un moment donné, on va avoir ce point. Ce feu rouge hein, qui va s'allumer, qui va nous dire on n'a plus que 4 blocs d'adresses IPv4 à assigner. Hein. Donc, nous, au niveau de l'IANA, nous sommes en communication avec les NRO et les différents registraires et les représentants de registraires pour essayer de coordonner la distribution de ces 5 derniers blocs. Et voir comment nous distribuons ces dernières adresses. Et si je regarde dans ma boule de cristal, je dirais que ce sera au printemps 2011 que nous allons attribuer les cinq derniers blocs. Et alors, quand est-ce que les registraires... C'est quelque chose d'incertain. On peut parler des dernières activités en fonction de nos dernières activités, des demandes de numéros. Mais cela varie d'une semaine à l'autre. Par conséquent, on va peut-être avoir une accélération de ce processus. Mais je pense que l'on peut dire que les registres régionaux, le RIPNCC par exemple, n'auront plus d'adresse IPv4 au cours du deuxième semestre de l'année 2011, à un moment donné de l'année donc 2011. Et j'ai une autre question en ligne. Quel est le coût pour une entreprise? C'est cher, non? Je dirais que nous pensons que l'équipement qui est en place aujourd'hui dans le réseau de base est déjà capable d'utiliser le système IPv6 et donc il s'agit d'un problème de passage, hein, de déploiement d'IPv6 et il faut donc concevoir le réseau en fonction de ce système IPv6. Le coût sera surtout pour la formation. Mais c'est pas aussi difficile, aussi cher que ce que l'on peut penser. Il y a eu des rapports venant de différentes personnes qui ont adopté ce système pour leurs réseaux fondamentaux, leurs réseaux principaux. Et la principale crainte qu'ils avaient, c'était avant. Après ça, ils ont dit, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué et on aurait dû le faire avant parce que vraiment, ça a été beaucoup plus simple que ce que l'on pensait. Donc, je pense qu'il y a différents aspects qu'il faut considérer. Le coût de pour se préparer, hein, se préparer pour l'IPv6, cela peut être planifié, comme on peut planifier toute dépense dans le domaine de business. Hein. Et on peut échelonner ça sur une période de temps qui vous permet de planifier cette transition et de planifier les dépenses et les investissements. Si on décide d'attendre à la dernière minute, ça va coûter plus cher, là, c'est sûr, parce que à ce moment-là, ce qu'il faudra faire, ce sera d'essayer de faire beaucoup de choses en même temps pour se mettre à jour. Et à ce moment-là, il y aura une urgence, un plan de transition urgent qu'il faudra mettre en place. Et à ce moment-là, il faudra vraiment mettre en place un réseau capable d'entrer en communication avec un système IPv6. Ça coûtera plus cher. Et en ce qui concerne le système de soutien, personne ne veut modifier entièrement son équipement. Et donc, il y a toute une série de coûts qui sont en jeu ici. On peut dépenser beaucoup d'argent à la fin si on se retrouve dans une situation d'urgence et que l'on doit s'adapter tout son matériel, maintenir les systèmes parallèles qui existaient dans l'IPv4. Et si on fait cela maintenant, on peut le faire plus tranquillement, sans urgence. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de fournisseurs de services qui l'ont fait comme ça, qui ont été intelligents et qui ont réparti les coûts sur plusieurs années. Donc, je sais que c'est quelque chose de coûteux, mais s'il faut le faire, il vaut mieux le faire tout de suite. Vous avez l'air de dire que c'est la direction dans laquelle nous allons. Il faut dépenser de l'argent. Il vaut mieux le dépenser tout de suite plutôt que dans le futur. C'est ça que vous dites? C'est pas trop simplifié? Non, 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 c'est ça. C'est un peu comme, je dirais, si j'achète quelque chose maintenant. Avant, aux États-Unis, on pouvait rentrer dans un magasin et si on achetait quelque chose, on pouvait le payer en plusieurs mensualités, hein, 25 dollars par exemple par an. Hein. Donc voilà, c'est un peu ce que je dis. Si on a un plan d'investissement, on peut investir en plusieurs mensualités, par exemple, que si on doit donc investir un gros capital. Ici, pour ceux qui nous écoutent, je voudrais vous dire qu'il y a des petites défaillances ici. Alors, quel type de défaillances peuvent rencontrer nos clients une fois que le système IPv4 ne fonctionnera plus? L'usager final ne comprend peut-être pas pourquoi ou comment il peut résoudre certains problèmes. Ou bien certains clients vont téléphoner à leur serveur, à leur fournisseur de services, et ils leur diront « j'ai un problème de connectivité ». Ils ne se rendront pas compte que ce problème est dû au passage de l'IPv4 à l'IPv6. Peut-être que le fournisseur n'aura pas fait ce qu'il fallait qu'il fasse pour que le DNS fonctionne. Et si les clients utilisent l'IPv4, le DNS doit avoir une connexion avec l'IPvC qui s'appelle IPv6 Glue. Hein, c'est une configuration, hein, ça n'a rien de spécial. Ça ne demande pas un changement des équipements, c'est un paramètre de communication. Par conséquent, les mises en œuvre précoces et comme elles ont davantage d'usagers d'IPv6, vont démontrer que ces questions d'infrastructure ne seront pas obligatoirement prêtes. Et à ce moment-là, les configurations devront être faites par l'équipe technique qui devra tout configurer. Il y a des services qui ne peuvent fonctionner qu'avec l'IPv4. Et il y aura certains contenus qui pourront être reçus par IPv4. Et si vous avez une adresse IPv6, vous allez devoir faire une transition entre les deux systèmes pour que les deux adresses, l'adresse IPv4 et l'adresse IPv6, puissent communiquer entre elles. Ou bien, il y aura deux adresses qui vont offrir des services. Il n'y a pas assez d'adresses IPv4, hein? Mais dans certains types de services, par exemple pour Google, aujourd'hui, tous les serveurs Si vous saisissez www.google.com, vous allez accéder à leur service à travers le système IPv4 ou le système IPv6. Hein. Donc, cela signifie qu'il faut tenir compte de ce type de système du point de vue commercial, du point de vue de la planification et du fournisseur de services Internet. Il y a des gens qui croient que si l'on a une compagnie qui travaille avec IPv4, il faudra actualiser tout son système, tout le système de l'entreprise. Mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez continuer à fonctionner avec votre réseau interne sur IPv4. La partie externe, le périmètre de votre réseau externe devra fonctionner avec IPv6 pour accéder au reste du monde. Par conséquent, il n'y a aucune raison pour laquelle vous devriez tout réactualiser, tout votre réseau. Aujourd'hui, les entreprises qui ont un réseau IPv4 ont demandé une partie du pool d'adresses IPv4 et donc nous les avons réservées pour qu'elles soient utilisées sur des réseaux privés. Et ainsi, l'ensemble des adresses IPv4 pourront devenir des adresses privées par la suite qui seront destinées aux entreprises seulement. Ça serait un peu la transition que nous allons faire. Hein. Il y a une question dans la salle. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter? Je suis... Je voudrais parler, je suis ici en tant que représentante de ALAC et de ICANN pour l'Europe. Et comme vous l'avez dit auparavant, il n'y aura pas de changement pour les serveurs ou pour les usagers finaux. Dans plusieurs conversations avec la communauté technique, on m'a dit qu'il y avait des changements positifs si on utilisait le système IPv6. Par exemple, si l'on achète une imprimante qui travaille avec le système IPv4 ou avec le système IPv6, avec les deux types d'adresses, cette imprimante aura davantage de fonctions. Donc, je voudrais demander, s'il vous plaît, Je voudrais vous demander si j'ai raison ou si c'est quelque chose qu'on m'a dit qui est faux. Alors, du point de vue fonctionnel, l'IPv6 ressemble beaucoup au système IPv4. Donc, un changement de ce type n'aura pas lieu. Hein. Par contre, on peut dire qu'il y aura davantage de transparence sur le réseau. Actuellement, nous avons vu au cours de ces dernières années quelque chose et qui arrive à cause du manque d'adresses IPv4. Il y a des traducteurs de direction de réseau, d'adresses de réseau, pardon. Donc, on peut cacher son réseau en utilisant ce type de dispositif. Hein. Comme l'a dit Lise, on peut avoir des espaces d'adresses internes et à ce moment-là, on ne montre qu'une partie de cela au reste du monde. Alors, avec le IPv6, ce ne sera pas nécessaire parce que comme il y a beaucoup d'adresses, vous pouvez avoir chacun des dispositifs dans votre réseau interne qui soient visibles pour le monde extérieur. Il y aura donc des améliorations au niveau fonctionnel parce que vous allez pouvoir atteindre le monde extérieur avec davantage de facilité. Je pense que je suis d'accord, il y aura des améliorations fonctionnelles. Vous pensez que l'on va avoir une situation dans laquelle les gens ne vont pas agir à temps? Hein? Comment est-ce qu'on peut résoudre le problème si les gens ne réagissent pas à temps, non? Cela ressemble à une affaire connue. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations
Il existe des problèmes potentiels où certaines parties du réseau peuvent être interrompu ou pas, hein, en fonction d'une mauvaise ou bonne préparation. Donc, ça va être un peu comme la situation avec le Y2K, où les gens avaient peur que les choses allaient se casser. Oui, Axel, non, excusez-moi, quand on est passé du 20e siècle au 21e siècle. Donc, tout le monde s'attendait peut-être. Il y avait beaucoup de consultations pour arriver jusqu'à l'année 2000 et ça va être vraiment un grand moment pour les consultants de IPv4, IPv6. Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y aura une interruption générale, une panne générale. Il y aura des parties qui devront être réparées, mais c'est réparable. Je ne pense pas qu'il y aura une panne générale, vraiment pas. Non, pas de panne générale. Oui, c'est pour ça que je vous ai regardé un peu bizarrement du côté. De côté, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une cas de Y2K en termes d'opérationnalité. L'Internet va fonctionner et une fois qu'on n'aura plus de numéros dans votre organisation, dans la mienne, cela ne signifie pas, ça ne va pas changer. L'Internet va quand même fonctionner. Peut-être qu'il y aura des problèmes, mais ces problèmes vont arriver au fur et à mesure. Peut-être qu'il y aura un peu ici d'IPv4, d'IPv6, il y a des problèmes qui vont surgir, qui vont pouvant être réparés. Ça ne va pas arriver que l'Internet ne fonctionne plus du tout. Donc, Axel, ce que vous dites, c'est que tous les journalistes en ligne qui ont écrit sur la panne générale, ils devront refaire le titre, alors. Si c'est seulement le titre, ça va, parce que les gens vont pouvoir lire. Hein. Et vous allez voir que la situation n'est pas si terrible. Et Monica, en Europe, est-ce qu'il y en a un rôle pour promouvoir la connexion alors qu'il y a des problèmes de routage vers les utilisateurs finaux? Je pense que le rôle de Yana est de promouvoir l'évolution de l'utilisation des numéros et des paramètres de protocole de l'Internet et l'évolution du système de nom de domaine. Et la connectivité universelle, et c'est un rôle plutôt de promotion plutôt que de n'importe quel autre type de rôle pour le moment. Et nous le faisons en parlant dans différents forums, et pas seulement en tant que Yana, mais le directeur de ICANN en parle également. L'équipe exécutive aussi, et nous avons des spécialistes au sein de ICANN et de Yana qui s'adressent à plusieurs forums à travers le monde dans un but promotionnel. Maintenant, je vais poser une question à mon tour. Je suis curieux, lorsque vous vous déplacez, lorsque vous parlez aux gens, comme vous parlez à ces journalistes actuellement, qu'est-ce qui vous revient? Quel accueil avez-vous? Est-ce que les gens disent « Ah, on n'avait pas réalisé cela, on n'avait pas réalisé que cette transition va arriver si rapidement ?» Qu'est-ce que vous entendez? Quels sont les échos que vous avez? J'ai davantage d'informations que les gens maintenant me disent que ils sont conscients que quelque chose va se produire et peut-être qu'ils n'ont pas les détails, mais maintenant le public en général est au courant. Surtout les opérateurs de réseau, il faut vraiment être minuscule, un petit opérateur derrière des montagnes énormes pour ne pas avoir entendu parler de ce problème. Et comme Elisa a dit, nous avons ces conférences à travers le monde. Les opérateurs, les groupes d'opérateurs de réseau, ils nous se parlent et cette communication dure depuis des années. Et cette question de l'IPv6 a été lancée depuis plusieurs années. Au cours des 3 dernières années, constatons une grande prise de conscientisation et d'action. Et comme Monica a dit, il y avait une réunion où certaines questions ont été débattues. Et c'est vraiment le rôle de ces conférences, les ISP, les opérateurs de réseaux doivent échanger des informations sur les questions opérationnelles telles que IPv6. Ils vont avoir des petites erreurs et ensuite ils pourront aborder les difficultés. Et c'est pour ça qu'il est important de se parler, de communiquer. Je comprends, vous obtenez des informations, mais dernièrement, parmi les commentaires que je reçois, c'est surtout les préoccupations au sujet des dépenses et les préoccupations que bien que les vendeurs de grandes infrastructures telles que les routeurs et les switches, les interrupteurs, ils sont prêts. Ils ont implémenté les deux protocoles, IPv4 et IPv6. C'est l'équipement qui est plus proche de l'utilisateur, qui est vraiment la partie la plus préoccupante. Comment vont-ils faire ça? Donc, les PC en général sont faits de manière à pouvoir accepter les deux protocoles, mais beaucoup des routeurs ne sont pas capables d'accepter les deux suites de protocoles. Il y a beaucoup d'équipements tels que celui-ci qui est intermédiaire entre les grands fournisseurs de services et les PC. Voilà la préoccupation principale. Comment est-ce que ces vendeurs pourront garder le pas et que les gens, les propriétaires puissent actualiser leur équipement pour le moderniser. Et je crois que là réside le problème. Surtout aux États-Unis, on est passé de la télévision normale à la télévision HDTV et j'étais parmi les derniers et j'ai traîné le pas. Et donc, j'ai pas pu avoir certaines chaînes de télévision jusqu'à ce qu'on ait acheté une nouvelle télévision. Donc, les utilisateurs individuels vont voir qu'à un moment donné, ils ont beaucoup d'équipements par héritage et peut-être que les vendeurs de ces appareils n'ont pas gardé le rythme. Voilà les questions que j'entends, moi. On a une question ici. Bonjour. Je m'appelle César Sabogal.
Bonjour. Bonjour, je suis César Sabogal de l'Agence française de presse. Je voudrais répéter une question sur les coûts de l'IPv6 pour une organisation qui commence à s'organiser, à se mettre en place. Ce n'est peut-être pas le moment de décider si on commence tout de suite avec une technologie IPv4 ou si on commence avec une technologie IPv6 directement qui coûte moins cher. Alors, faire la transition et qu'est-ce que vous recommandez? Et faire la transition, attendre que l'IPv6 soit complètement déployé ou commencer directement avec l'IPv6? Je pense, si vous êtes quelqu'un qui commence à mettre en place un réseau, vous avez intérêt à acheter un équipement qui sera capable de déployer les deux. Et la plupart des équipements qu'on achète aujourd'hui peuvent fonctionner avec IPv6. Et je pense que l'interopérabilité pour les clients qui ne vont pas utiliser tout de suite IPv6 est importante quand même parce que ça va vous permettre d'accroître vos services avec IPv6 et vous pouvez donc connecter les deux, hein, IPv4 et IPv6. Et la plupart des équipements donc fonctionnent avec les deux systèmes, peuvent fonctionner avec les deux systèmes. Donc moi, je vous propose directement d'acheter ce type d'équipement. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions qui ont été posées en ligne. Est-ce que vous avez autre chose à dire avant de faire la conclusion? Si nous n'avons pas déployé IPv6 maintenant, nous avons un an pour le faire sans souci. Donc, il vaut mieux le faire tout de suite. Je voudrais dire que c'est un petit peu choisir entre la famine et le festin. Vous pouvez décider de mourir de faim ou vous pouvez décider de faire une grande fête et de faire un grand festin. Voilà. Comme vous voulez, parce que IPv6 a toutes ces adresses qui sont à la disposition du public et l'Internet. Et finalement, c'est des innovations. Tout ce qui s'est passé au cours de ces 25 dernières années était tout à fait inattendu. Donc, si vous choisissez la famine, eh bien, vous dites, OK, je vais garder ce vieux système. Je n'attends rien de nouveau d'Internet. Alors que si vous allez vers IPv6, vous ouvrez à la nouveauté, à l'innovation. Bien, nous vous remercions tous les deux, tous ceux qui sont en ligne. Si vous avez besoin d'informations additionnelles sur IPv6, vous avez une feuille d'informations que nous pouvons vous envoyer. Mon adresse email et vous avez une série d'adresses électroniques que vous trouverez en ligne auxquelles vous pouvez donc envoyer vos demandes donc pour avoir davantage de précision. Merci à tous.